Radio Kapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Le contingent burundais de l'EAC se retire des entités théâtres des affrontements qui opposent les groupes armés locaux et les FARDC au M23 dans le Nord Kivu. Pas de réaction de l'EAC pour l'heure, mais le Burundi confirme ce retrait tout en déplorant l'indifférence du commandement de l'EACRF. Plus d'un milliard de dollars qui échappent au trésor public devraient être intégrés dans le budget 2024, d'après le vice-président de la Commission économique et financière du Sénat. C'est le résultat des enquêtes parlementaires menées dans quelques entreprises. La question a été évoquée hier lors d'une importante réunion entre le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement, et le bureau du Sénat. Madame, Messieurs, bonjour. En Nord Kivu, des militaires du contingent burundais de la force régionale de l'EAC déployés en territoire de Masisi se retirent notamment de Kichanga, Mouisso et Kirolirwe, des entités concernées par les affrontements qui opposent les groupes armés locaux et les FARDC aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Jusqu'ici, la force régionale de l'EAC n'a toujours pas communiqué sur cette situation, mais pour sa part, la force de défense nationale du Burundi confirme ce retrait tout en indiquant qu'elle déplore l'indifférence du commandement de l'EACRF face aux menaces que leurs troupes ont subies de la part des rebelles du M23 dans le Masisi. Sifa Maguru.
Dans un communiqué signé ce 9 novembre par le porte-parole de la force burundaise, le colonel Floribert Bireyeke, l'armée burundaise déplore que les récents affrontements entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23 affectent beaucoup les vécus quotidiens de la population, mais également entraînent des répercussions sur l'exécution du mandat de la force régionale de l'EAC. Ce communiqué poursuit qu'en date du 21 octobre, un convoi du contingent burundais qui acheminait le ravitaillement des vivres à Kichanga et Mouisso s'est vu refuser le passage par le M23. Le même fait s'est produit le 30 octobre. Le commandement de la force de l'EAC a été saisi pour résoudre la question mais n'a pas pu ramener les rebelles à la raison, précise l'armée burundaise. Son contingent était obligé de prendre des mesures qui s'imposent. Rappelons que le contingent burundais de la force régionale de l'EAC a son quartier général à Mubambiro. Il déployait ses troupes depuis Mushaki et Kirolirwe jusqu'à Mouisso. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Pendant ce temps, sur le terrain des opérations, des combats ont été signalés hier dans la région de Kirolirwe, territoire de Masisi. D'autres affrontements ont également eu lieu momentanément dans le groupement Bukombo, précisément à Rubona et Sisa, chefferie de Buito. L'armée serait en train de bombarder par voie aérienne les positions conquises mercredi par les rebelles du M23 et leur soutien dans la région de Kirolirwe et ses environs, notamment Kaoussa et Mouyangue sur l'axe Masisi-Kichanga, affirment nos sources. Dans le territoire de Beni, un déplacement massif de la population est observé depuis quelques jours dans quelques villages du groupement de Banane de Kainama. Les déplacés qui se sont concentrés au centre commercial de la localité de Kainama fuient la récurrence des attaques des rebelles EDF dans la région. La société civile locale appelle à la sécurisation de la population. Marc Marofimbo.
Les villages abandonnés par la population sont Batonga, Tondole, Aize, Malaya, Mboku, Boyo et Bwakodi. En 10 jours, ils ont été la cible de 5 attaques distinctes des EDF. Conséquemment, ces villages se sont vidés de leur population qui se sont dirigés vers Kainama Centre, un milieu jugé sécurisé dans la région. La société civile du groupement Banane de Kainama plaide pour l'élargissement dans cette zone des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les EDF. Bienfait Baraka et son conseiller.
Aux opérations conjointes des FARDC UPDF, d'élargir leur zone d'action, même dans la province de l'Ituri, afin de protéger la population qui fuit dans les groupements Banane de Kainama et voir comment aller mettre les positions dans ces zones là où la population a fui.
De leur côté, les FARDC appellent à la collaboration de la population pour faire face à la menace des EDF dans la région. Le capitaine Anthony Malouchai, porte-parole des opérations Sokola 1.
Nous demandons à la population d'être calme. L'armée a déjà des informations, des renseignements sur la menace qui pèse sur la population dans son ensemble. Nous devons travailler main à main avec tous les services de sécurité pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi.
L'enregistrement des populations déplacées a débuté ce jeudi matin à Kainama Centre. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Entre-temps, dans la province de la Tchopo, le commissariat provincial de la police interdit tout rassemblement de plus de 5 personnes sur toute l'étendue de la ville de Kisangani et environ. La détention d'armes blanches est également prohibée sur la voie publique. Ce sont là quelques mesures prises afin de lutter contre l'insécurité croissante et les affrontements intercommunautaires devenus récurrents dans cette entité. Des précisions avec Jacques Mukonkole.
Ces mesures s'imposent afin de juguler les affrontements sanglants devenus récurrents dans l'interland de la ville de Kisangani. Cette situation provoque même le trouble de l'ordre public au cœur de la ville. On se souviendra que samedi, dimanche et lundi dernier, les affrontements de Yali Sombo et Batia Mutengo ont causé la mort de 10 personnes, plusieurs blessés, ainsi que des dégâts matériels importants selon le bilan officiel des services spécialisés. Hier, au point kilométrique 7 sur la route de Banadia, au moins une personne a été tuée. Des habitations et autres dégâts matériels, ainsi que le déplacement des populations ont été également enregistrés. Ceci suite aux affrontements entre les jeunes de la ville et ceux issus de la communauté Kumu. Avant-hier, ce sont des jeunes confondus provenant des communes Mangobo, Makiso et Lubunga qui ont marché jusqu'au centre-ville, munis d'armes blanches et des bâtons, pour dénoncer les tueries enregistrées dans les différents accrochages. En vue de mettre un terme à ce désordre, le commissaire provincial de la police a pris ce train des mesures contenues dans un communiqué officiel daté d'hier. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire adjoint François Kabeya Makosa appelle la population à collaborer avec les forces de sécurité. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Par ailleurs, la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri reste préoccupante en dépit des efforts que fournissent les autorités pour restaurer la paix. C'est ce qui ressort du rapport d'observation des violations des droits de l'homme des JIE à septembre 2023, rendu public mercredi par Justice Plus, une organisation de défense des droits de l'homme. Dans ce document, cette ONG indique que plusieurs localités restent affectées par l'activisme des groupes armés. Elle a formulé une série de recommandations au gouvernement et à ses partenaires en vue de mettre fin au climat d'insécurité et de favoriser le retour de la paix dans cette province. Jean-Claude Loki nous fait le condensé de ce rapport.
Il s'agit pour la plupart des infractions de meurtre, vol, extorsion et pillage des biens, enlèvement et incendie des maisons. Ce rapport de 23 pages contient le tableau récapitulatif des allégations des violations des droits de l'homme imputable aux forces de défense et de sécurité, aux différentes milices et groupes armés, dont l'ADF. Le 22 juillet, par exemple, les soldats des FADC en colère avaient tiré à bout portant sur une foule lors d'une veillée mortuaire à Nyakové, près de Tchomia. 13 personnes avaient été tuées. Justice Plus dit recueillir ces informations auprès des organisations partenaires sur place à Bounia, mais aussi auprès des collaborateurs qui travaillent sur le terrain. Parmi les recommandations, cette ONG demande au gouvernement d'accélérer le processus de DDRCS, de multiplier des audiences foraines pour que les auteurs des violations des droits de l'homme soit sanctionnée, de s'impliquer dans la suppression des barrières illégales érigées sur toute l'étendue de la province et qui demeurent un fléau, souligne ce rapport. Justice Plus suggère aussi que les militaires et policiers auteurs des tracasseries de la population soient déférés devant les autorités judiciaires. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio, Okapi.
Autre nouvelle, 1,4 milliard de dollars américains qui échappent au trésor public devraient être intégrés dans le budget 2024. C'est ce qu'affirme le vice-président de l'Ecofin du Sénat. C'est le résultat des enquêtes parlementaires menées au sein de quelques entreprises par la commission Ecofin du Sénat. Ceci ressort d'une importante séance de travail tenue hier au Palais du Peuple entre le Premier ministre Samalou Kondé, accompagné de quelques membres du gouvernement, des responsables des régies financières ainsi que le président du Sénat Modeste Bahati. Ce dernier était accompagné d'autres membres de son bureau et de la Commission économique, financière et bonne gouvernance du Sénat. La maximisation des recettes était au menu de cette réunion qui a permis aux deux parties d'échanger sur les informations recueillies lors des enquêtes parlementaires susévoquées. On écoute à ce sujet Célestin Vunabandi, vice-président de l'Ecofin du Sénat. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Les droits établis sont de l'ordre de plus ou moins 1,4 milliard de dollars qui doivent être recouvrés. Nous avons estimé qu'il était important, avant que ces chiffres ne soient portés justement dans la loi des finances de l'exercice 2020, qu'une rencontre de haut niveau ait lieu entre les présidents du Sénat, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement pour plancher sur cette situation et insister auprès du gouvernement pour que les droits qui ont été calculés soient effectivement recouvrés. Son Excellence Monsieur le Premier ministre s'est engagé à pouvoir réunir très rapidement les membres du gouvernement concernés par ce dossier pour examiner toute la pile des informations que nous avons mises à leur disposition. Une fois que ce travail aura été fait, nous reprendrons contact avec eux, nous comme Ecofin du Sénat, pour évaluer la mise en œuvre de actions visant à recouvrer les sommes dites.
Dans l'actualité aussi, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, s'est dit vivement préoccupé par les difficultés actuelles éprouvées par les Congolais pour se procurer une pièce d'identité nationale aussi élémentaire que le passeport. C'est ce qu'a affirmé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, dans une correspondance parvenue jeudi à Radio Kapi, adressée au député national Josué Mufula en réponse à sa question écrite du 14 août dernier sur le retard de livraison des passeports. Christophe Lutundula rassure que le gouvernement s'attelle depuis mai 2021 sous la haute autorité du président de la République à répondre à la demande pressante et toujours nombreuse des passeports par les Congolais de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Michel Kifindangoy.
Répondant aux questions précises du député Josué Mufula, le VPM des Affaires étrangères justifie le retard dans l'octroi ou la livraison des passeports par l'obsolence ou la vétusté d'équipements d'impression des passeports utilisés par l'opérateur Locosem. Celui-ci refuse de réinvestir en achat de nouvelles machines vu la ferme décision de la RDC de ne plus renouveler les contrats avec cette entreprise et de désigner après appel d'offres un nouveau producteur des passeports dont la prestation démarre avant la fin de cette année. S'agissant du prix des passeports, Christophe Lutundula confirme qu'il est de 99 $ américains, tel que fixé par le président de la République en 2020, au lieu des 180 $ fixés en 2016. Le prix exorbitant exigé ces derniers temps est simplement le résultat des arrangements particuliers et des pratiques de corruption dues à l'impatience de certains requérants et leur pression pour obtenir des passeports dans le délai raccourci, précise Christophe Lutundula.
Direction la province du Maniema. Quelques jours avant le lancement de la campagne électorale du scrutin du 20 décembre prochain, le président de la société civile Nord Maniema appelle la population du territoire de Pounia à l'unité, à la tolérance, à la paix durant cette période qu'il qualifie de turbulence. Omar Kapene le dit au micro de Florence Kiza.
Tous ceux qui vont venir battre campagne, ce sont nos sœurs et nos frères aussi. La période ici, la campagne électorale, je sais qu'on va assister à beaucoup de choses, mais ce que je vais demander à la population, c'est d'être tolérant. Parce que la campagne électorale ne signifie pas les injures. C'est une étape qui est accordée aux candidats de vendre leur image, de vendre aussi leur projet de société. Et c'est à nous maintenant de trier lequel est le meilleur pour donner nos choix. Et si on est en train de parler d'un candidat qui n'est pas de votre choix, il suffit pas de faire la querelle. Il faut se taire et attendre les jours de scrutin. Chacun ira dans l'isoloir et il va placer les bulletins dans l'urne de son choix. Donc, il faut nous éviter de nous faire la guerre pour rien, de nous faire des tiraillements parce que les politiciens vont chercher, par exemple, à nous créer des problèmes, à nous mettre dans des conflits inutiles. Il faut nous dépasser de tout ça parce qu'après les élections, on demeurera toujours frais comme on est aujourd'hui. Ce n'est pas les élections qui viendront nous séparer ou soit faire en sorte qu'on puisse plus se parler.
Et puis, suite et fin de notre série de reportages débutée le lundi sur le déploiement du matériel électoral par la CENI dans le Tanganyika. Ce déploiement se déroule normalement, excepté quelques petites difficultés. Déclaration à Radio Kapi du secrétaire exécutif provincial de la CENI Tanganyika, Paulin Munanga, nous fait le point.
Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Tanganyika indique que les dispositifs électroniques de vote, autrement appelés machines à voter, sont déjà déployés dans la province. Francis Ilunga Chabanza précise qu'une partie de ces matériels a déjà atteint l'intérieur de la province. C'est notamment à Nyunzu, Kabalo et Moba. Il souligne que les kits bureautiques, les isoloirs, le bulletin de vote et autres matériels sont attendus dans le Tanganyika au courant de cette semaine. Il ajoute par ailleurs que les matériels prévus pour la formation des agents dans les 6 territoires du Tanganyika sont déjà acheminés et le dernier lot était attendu dans la soirée de ce lundi à Kongolo. Cependant, les responsables de la CENI dans la province tiennent à préciser que le déploiement du matériel électoral à l'intérieur du Tanganyika s'est fait avec des difficultés. C'est notamment celle liée à l'état délabré des routes, surtout en cette période pluvieuse. Et l'axe Kabalo-Manono n'est plus praticable. Le transport du matériel par bateau reste l'unique solution, indique Francis Ilunga Chabanza. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Burundi. Une peine de prison à perpétuité a été requise jeudi contre l'ancien premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni, accusé d'avoir voulu renverser le régime constitutionnel, rapporte une source judiciaire et des témoins. Le général Bunyoni, 51 ans, comparaissait en compagnie de 6 co-accusés devant la Cour suprême du Burundi, siégeant dans une salle de la prison centrale de Gitega, la capitale politique du Burundi, où il est détenu. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.